problèmes, les échecs. Prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec. Je vais te tirer les cartes et dans ta vie je vois des voyages, des nuages, des orages avec moi. Des voyages, des nuages, des orages avec moi.
Bonsoir Yanis Yuluntas.
Yanis Yuluntas.
Nous sommes à la Maison de la Terre à Poucharamé, à côté de Riom, pour une soirée autour de la Grèce. Vous avez fait une conférence tout à l'heure à 6h. Quel était l'objectif de cette présentation ?
Disons que le but, c'est surtout de parler autrement de la Grèce, parce qu'à travers les mass médias, on a une vision qui est, disons, un peu partielle et partielle également. C'est-à-dire qu'on ne sait qu'une partie des choses. Il se passe beaucoup de choses en Grèce, notamment des solutions alternatives à la crise, et aussi une révolte qu'on ne connaît pas forcément, ainsi qu'un état de famine déjà qui commence à poindre le nez et qui avance vers l'hiver à grands pas, avec des risques énormes de dégradation de la condition humaine là-bas. Et quand on demande plus d'efforts à la Grèce, comme c'est le cas actuellement quand on parle de traités, de pactes budgétaires, il faut savoir que là-bas, ça a des conséquences dramatiques.
Des discussions et des débats en Grèce et quelles sont les idées qui émergent et
il y a plusieurs types d'idées qui émergent. Hein. C'est d'abord, il y a une remise en question de la croissance, puisque on vit en situation de décroissance forcée. Donc, c'est moins 7% soi-disant, en réalité, c'est moins 15% quasiment. Hein. Je vais vous dire, les vrais chiffres, c'est plutôt ça. Donc, on parle de même moins 7%, hein, le chiffre officiel actuel qui est sous-évalué. C'est un chiffre qui montre à quel point, de toute façon, la décroissance, maintenant, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'a subi, on l'a choisi, on s'organise autrement, on change de mode de vie. Forcément, l'écologie, la décroissance en termes d'idéologie, de la remise en question de l'opulence, comme je venais de le dire, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin en Grèce, pourtant pays très retors à l'écologie il y a quelques années. Deuxièmement, il y a la critique du système politique. Alors la critique du système politique, elle passe notamment par la critique de la démocratie représentative, et c'est pour ça que des idées, on dira, pour résumer simplement, libertaires, font beaucoup de chemin en Grèce, et que ce mouvement protéiforme trouve de plus en plus écho dans la population, alors que dans les années 70, il était considéré comme quasiment terroriste, et ni d'une ni maître était une devise à cause de la croyance des Grecs qui était intolérable. Et puis, troisième plan, il y a un mouvement politique très fort qui ressemble un peu au front de gauche, qui s'appelle Syriza en Grèce, et qui arrive maintenant à être la principale force politique du pays, qui de justesse a été battue le 17 juin grâce à la force des médias grecs, et grâce à la faiblesse d'Internet, à cause de la faiblesse d'Internet dans les campagnes, campagnes dans lesquelles c'est l'UMP local qui a gagné très largement en faisant peur aux personnes âgées grâce à la télévision d'État. Et aux télévisions privées.
Dans certaines régions,
il n'y a pas du tout Internet, presque pas. Parce que c'est un terrain très accidenté, la Grèce, des montagnes, etc. Donc c'est très difficile. Quoi. Et puis pour finir, l'autre paramètre, c'est le fait que les gens, ils n'arrivent pas à se rendre compte quand ils sont loin du terrain de la réalité des luttes et de la réalité des culpabilités. Et c'est un petit peu le cas, je crois, dans les lotissements français. Vous savez, en France, les gens qui votent FN ne sont plus maintenant dans les banlieues comme avant, ils sont surtout dans les petits lotissements périurbains, etc., un peu loin, les néo-ruraux, qui veulent un peu être tranquilles et qui sont tellement loin de la réalité urbaine que finalement, ils finissent par croire à cette insécurité sociale, cette insécurité civile qui est faite surtout pour masquer la sécurité sociale. Je veux dire par là, l'insécurité civile, c'est toutes les petites peurs à cause des petits sauvages, mais qui essaient de faire oublier la grande peur, la véritable peur que nous devrions avoir des grands sauvages qui sont actuellement en train de détruire tout ce qui nous était cher dans ce monde.
Alors, face à ça, tout à l'heure, tu as parlé d'autogestion, notamment dans les hôpitaux, tu parlais aussi d'alternatives. Qu'est-ce qu'elles
sont les alternatives? Il y a d'abord des espaces sociaux libres, qui sont de plus en plus nombreux dans Athènes, par exemple. Donc moi, j'aime beaucoup, par exemple, Nosotros. Il y a un auditeur va en Grèce prochainement. Allez au Nosotros, place Exarchia. Vous allez de la part de Yannis Yuluntas. Yannis Yuluntas, vous trouvez mon contact sur Internet. Vous tapez Yuluntas, vous tomberez sur un blog, plein d'autres choses. J'écris dans le journal Ciné Mensuel, j'écris dans La Décroissance, j'écris dans Le Monde Libertaire. Je suis beau être libertaire, je suis compagnon de route du Front de Gauche. J'ai soutenu Mélenchon aux élections. Je le dis, je ne me cache pas. Je pense que c'est bien de dire les choses, de ne pas porter de masque, de ne pas faire semblant d'être un intellectuel dégagé sous prétexte que si on est engagé, on va forcément faire du prosélytisme. Je ne cherche pas du tout à faire du prosélytisme. Ce n'est pas la cause de mon propos, c'est la conséquence de mon propos. Soyez-en sûrs, chers amis auditeurs, je ne dis pas tout ce que j'ai dit auparavant parce que je vote Front de Gauche ou que je soutiens des idées libertaires ou que je lis assidûment tout ce qui se dit dans les mouvements de la décroissance. Je fais tout ça parce que c'est la conséquence de ma réflexion et de mes informations que je vous ai transmises jusque-là. Donc, concernant l'autogestion en Grèce, il y a beaucoup d'espaces sociaux. Et dans ces espaces sociaux, il se passe la chose suivante. Les gens échangent, font de l'éducation populaire, donnent des cours gratuits dans plein de domaines, et notamment de formation historique, de formation philosophique aussi, parce que comme en France, les gens ne s'initient à la philosophie, domaine qui me semble quand même essentiel pour choisir sa vie et devenir pleinement citoyen, qu'à l'âge de 17 ans, et encore que pour une partie de la population, ceux qui ont la chance d'aller jusqu'en terminale. Donc c'est quand même assez délirant. Il y a la moitié de la population qui n'y a pas accès. Et en Grèce, c'est pareil, sinon pire. Donc il y a des cours de philo gratuits, il y a plein de choses. Et puis deuxièmement, il y a aussi des actions artistiques tout à fait intéressantes qui se basent sur notamment la récupération d'objets, la récupération, le détournement aussi d'images. Et il faut reprendre tout ce que rejette le système pour l'aborder autrement. Voilà. C'est un petit peu ça la fonction. C'est tout à fait dans la filiation du surréalisme et du situationnisme que de détourner des éléments d'information, des informations médiatiques, par exemple, en collant des images, en collant des textes, par exemple, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut nous faire entendre. C'était le cas du documentaire qu'on a vu en première partie de soirée avant la conférence, qui s'appelle Grèce générale. C'est facile à retenir. Donc je vous invite, chers amis auditeurs, à chercher sur les moteurs de recherche Grèce générale, comme grève générale, mais vous mettez le mot Grèce avant. C'est un petit doc qui dure 11 minutes, qu'on peut trouver n'importe où, qui est bien sûr gratuit, et qui permet de se faire une petite idée sur la situation en Grèce, à laquelle j'ai un tout petit peu participé.
Tout à l'heure, on a parlé de dette. Il y a un film qui est sorti c'était l'année dernière, Deptocratie, un film grec.
Très beau film.
Par deux journalistes grecs, très intéressants, sur notamment la remise en cause de la légitimité de la dette et des audits où ils appellent les pays à faire des audits citoyens de leur propre dette. Est-ce que c'est une idée qui a fait son chemin en Grèce? Est-ce qu'il y a un audit de la dette
grecque? Essaie de le faire, mais c'est très difficile, quoi. On a des bâtons dans les roues et... En fait, le vrai moratoire sur la dette avec audit à la clé ne peut être fait que par un gouvernement souverain élu, qui représentant vraiment la souveraineté du peuple. Et malheureusement, avec le hold-up des élections du 17 juin, c'est plus le cas pour un certain temps. Donc pour l'instant, on est plutôt dans les solutions alternatives modestes, qui sont l'équivalent des AMAP, des SEL, des espaces de troc et d'échange, des médias alternatifs comme votre radio... Beaucoup de choses de ce genre, mais il est pour l'instant assez difficile d'avoir des perspectives en termes de maîtrise de la dette. Je parle de maîtrise en termes d'informationnel, c'est-à-dire d'un véritable audit et un moratoire qui serait absolument nécessaire, parce qu'un moratoire sur les dettes, même en France, il y a tellement de choses qui ont été achetées qui n'avaient aucun sens que ça mériterait qu'on les renvoie en bateau à leurs vendeurs. Les gouvernements corrompus ne cessent d'acheter ou de dépenser de l'argent pour des choses inutiles parce qu'ils ont des intérêts là-dedans. Donc en Grèce, en l'occurrence, c'est l'achat d'armes conventionnelles. La Grèce était en 2009 le cinquième pays du monde pour le nombre d'achats d'armes conventionnelles.
Alors tous les budgets ministériels de la Grèce ont chuté, sauf le budget de l'armée.
Oui, voilà.
Les Grecs continuent d'acheter des armes à la France et à l'Allemagne en particulier.
Bien sûr. Oui, c'est ces deux pays-là surtout. Et puis la Grèce commence à vendre ses îles, contrairement à ce qu'on a dit, il paraît que ce n'était pas le cas. Si, c'est le cas. Déjà, on vend des plages, on vend vraiment les îles quasiment à 90%. par un petit rocher central, voilà, symboliquement, pour ne pas dire qu'on a vendu toute l'île. Et puis, on vend les terres fertiles du Péloponnèse à des industries agroalimentaires, là aussi françaises et allemandes. C'est vraiment dramatique et nos industriels, pas tous, hein, mais beaucoup de nos industriels, notamment les industries agroalimentaires, sont absolument abominables dans cette affaire. Et les gens résistent en Grèce un peu comme sur le Larzac, c'est-à-dire qu'ils essaient d'acheter des petites parcelles de terre pour gêner les grands achats de grands industriels occidentaux. Voilà, donc on lutte comme on peut, mais il faut bien se dire une chose, hein, c'est que les Grecs ne pourront rien faire sans nous. Ils ont vraiment besoin de la solidarité des Français, des Allemands et tout ça, parce qu'en fait, ils savent bien que ce n'est pas les Allemands ou les Français qui sont contre eux. Ce sont nos pouvoirs qui tendent les Grecs, comme ils nous tendent de nous aussi. Donc il faut que les peuples s'unissent pour refuser ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin de ça plus que jamais. Et comme je l'ai dit par rapport à mon pédigré, pour expliquer un petit peu d'où vient mon propos, parce que je pense qu'il faut être honnête avec les gens qui m'écoutent, je pense vraiment qu'il faut dépasser nos différences, quoi. Peu importe qu'un tel soit plutôt socialiste, plutôt est un itinéraire, plutôt qu'ils soient passés par la droite ou par le centre ou l'extrême gauche ou ailleurs, peu importe tout ça, peu importe les vieilles lunes entre libertaires et front de gauche, enfin communistes à l'époque, etc., entre écolos et d'autres courants, etc., peu importe, aujourd'hui on est loin de tout ça. Je dis pas que tout ça n'a pas de sens, que les idéologies et les visions de la société aujourd'hui n'ont pas d'importance par rapport à un projet de changement, mais la priorité absolue, c'est vraiment de sortir de cette situation qui est catastrophiquement dangereuse et vers laquelle on va à grands pas. Sous prétexte de nous diviser pour mieux régner, aujourd'hui, on arrive à nous faire peur avec les Grecs, mais à nous faire peur pour nous faire baisser la tête. Alors qu'il faudrait nous faire peur, il faudrait qu'on ait peur, mais qu'on ait peur en levant la tête, en disant « non mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça ». Donc c'est ça que je veux dire à nos amis auditeurs, c'est vraiment qu'il faut se dire que nos frères humains et sœurs humains en Grèce sont dans une situation catastrophique qui nous pend au nez. La Grèce est notre passé, elle est aussi notre avenir. Il faut vraiment se rapprocher d'eux, s'informer, comme on essaie de le faire ici, et réagir avant que ce ne soit trop tard. Il est encore temps de nous tendre la main les uns les autres et de lutter ensemble contre ces pouvoirs qui nous oppriment.
De quelle manière ça pourrait passer, cette solidarité envers la Grèce ?
Il faut se rencontrer, il faut faire plein de réunions. Par exemple, moi je tourne beaucoup en France, vous savez, je suis journaliste pour le journal Ciné Mensuel, le journal satirique. J'écris des livres aussi, mais je passe énormément de temps, bénévolement pour la plupart du temps. Là, on m'a payé juste les frais de déplacement pour venir. J'ai rien voulu d'autre, hein. J'ai vendu quelques livres, j'ai signé quelques livres, mais je suis bénévole, je déplace énormément en France pour non pas seulement expliquer la situation, mais pour créer des liens entre les Français et les Grecs, pour que les gens comprennent que voilà, il faut pas croire que les Grecs nous doivent de l'argent et des choses comme ça, c'est faux. Et c'est pas des dettes qui sont contractées de pays à pays, c'est des dettes qui sont contractées par chaque pays et aussi les particuliers dans chacun de ces pays vers des organismes financiers qui s'engraissent énormément sur le dos des peuples, sur le dos des gens qui se suicident, sur le dos des enfants qui s'évanouissent dans les écoles en Grèce, mais qui s'évanouiront demain dans les écoles en France, si ça continue comme ça. Vraiment, vraiment, c'est arrivé très très vite en Grèce. Ne croyez pas que ça ne peut pas arriver en France bientôt. Et ne croyez pas que c'est parce que les Grecs ne font aucun effort. C'est tout simplement parce qu'on nous en demande toujours plus partout. Et comme on nous en demande toujours plus en France, et comme c'est pas fini de continuer ainsi, quel que soit le gouvernement dont on nous parle, excusez-moi, mais il y a certes des différences sans doute entre le gouvernement Sarkozy et le gouvernement Hollande, mais pour l'essentiel sur la question des finances, pour l'instant on suit exactement la même direction. Regardez, il vient d'avoir une nouvelle taxe sur les retraites de 0,15%. Je sais, c'est pas beaucoup pour participer au trou de la Sécu, mais ça ne cesse de continuer ainsi, quoi. Et pour l'instant, on en est qu'à à un rythme assez modéré, mais ça pourrait éventuellement s'accélérer bientôt si le modèle de réforme grecque était imposée à d'autres régions de l'Europe sous prétexte d'endettement. C'est toujours le même système. C'est le serpent qui se mord la queue et c'est une situation dans laquelle on ne pourra pas sortir sans faire un pas de côté. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la quadrature du cercle, comme tous ces jeux géométriques qui nous obligent en fait pour trouver une solution à sortir du cadre. Et on ne peut pas trouver de solution dans ce cadre. Donc si on continue à écouter les experts et les politiciens qui nous disent on est obligé, on ne peut pas faire autrement, la situation est inévitable, c'est la crise, qu'est-ce que tu veux que je te dise, comme dit le chanteur. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas de réponse, mais si par contre on envisage éventuellement de sortir du cadre et qu'on essaie de regarder ça avec du recul, on se rend bien compte que c'est complètement absurde, c'est délirant, tout ça n'a aucun sens. le système de la monnaie déjà est discutable, tel qu'il fonctionne, hein, parce qu'après on peut échanger autrement, il y a plein de procédés, mais je veux bien quand même, si on reste dans une monnaie, même si c'est pas une monnaie fondante, c'est-à-dire une monnaie qui ne peut pas se capitaliser, même si on utilise une forme de capitalisme, pourquoi pas, donc je mets beaucoup de même quand même, hein, je veux bien faire beaucoup de concessions au système, mais quand même d'en arriver au point où il y a des gens qui sont d'une richesse inouïe, et comme l'a annoncé la FAO, 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim sur Terre, et l'Europe qui commence à être touchée par cela, alors que la richesse du monde, la productivité n'a jamais été aussi importante, c'est totalement aberrant, absurde, et excusez-moi de vous le dire, mais on est tous les dindons de la farce. On est tous les dindons de la farce. L'argent est lié, la production est liée, la richesse est liée. Il n'y a aucune raison qu'il y ait tant de gens autour de nous qui souffrent de différentes façons, des familles monoparentales avec des mamans qui courent 2 heures à la, qui sont prévenues 2 heures à l'avance pour aller travailler dans la flexibilité au supermarché ou ailleurs, qui se débrouillent comme elles peuvent avec les enfants, etc. Des personnes, des retraités qui ont à peine de quoi se nourrir, ou des familles qui, ayant fait l'erreur d'acheter un logement un peu trop élevé par rapport aux revenus de l'époque, se retrouvent dans une situation où les enfants ne font que manger des pâtes tout le mois, quoi, du premier jour au dernier jour du mois. Il y en a beaucoup, des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se suicident beaucoup plus qu'avant. On n'en parle pas, mais il y a beaucoup de tentatives aussi. Et dans ce contexte-là, je crois vraiment qu'il faut réagir. Et réagir, ça veut dire vraiment prendre les choses autrement, ne pas accepter de rester dans le cadre de réflexion qui est qu'est-ce qu'on fait dans le système pour s'en sortir. On ne peut pas comme ça, il faut réfléchir en dehors du système, il faut faire un pas de côté, il faut se dire que des alternatives sont possibles. Margaret Thatcher dans le TINA, le fameux TINA de 1984, une formule, c'était There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Reagan à l'époque pareil, etc. C'était une époque rêvée du capitalisme qui était en train de s'en transformer sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et le principe depuis cette époque-là, c'est toujours de dire il n'y a pas d'alternative, ne rêvez pas, il faut être réaliste. Bon, ce qu'on nous demande, c'est d'être réaliste. Non, être réaliste, c'est regarder la réalité des faits, la réalité de la production, la réalité de la richesse, la réalité de la condition humaine. Il faut regarder les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils vivent, et se rendre compte que c'est tout à fait intolérable. Donc être réaliste, c'est dire non, c'est dire stop. Être réaliste, c'est pas dire oui, je baisse la tête parce que je vois bien que dans le système tel que fonctionne le système, il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, si c'est pensé comme ça, c'est certain que dans ce cas-là, on va tellement baisser la tête qu'on va finir par ramper. D'ailleurs, on n'est pas loin de le faire. On marche quasiment à genoux et demain, on rampera comme les Grecs.
Pas se résigner et remettre en cause ce qu'on.
Il ne faut surtout pas se résigner. Moi, je ne suis pas spécialement optimiste ni pessimiste. Je pense que ce sont les deux faces d'une même illusion que d'être optimiste ou pessimiste. C'est d'être dans une forme de stratégie de spéculation de l'avenir. C'est se dire, voilà, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va échouer. Je pense qu'il ne faut pas se poser la question de ces termes. Il faut résister par dignité plus que par espérance. Il faut résister par principe et parce que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'on a plein de choses à vivre ensemble les uns et les autres et on n'a pas de raison d'être en concurrence, que ce soit avec son voisin, que ce soit avec un pays étranger, en Europe ou même ailleurs. On a tant de choses à vivre ensemble, on a des richesses à échanger, on a des capacités en termes de production, de création et dans tous les domaines qui sont formidables. L'humain est quelque chose qui vaut vraiment beaucoup mieux que la destruction qu'il opère aujourd'hui sur la Terre, ainsi que la destruction sociale qu'il opère par rapport à tous les petits progrès qu'il avait fait en matière de répartition des moyens de subsistance.
D'où l'importance de se rencontrer, de débattre, d'imaginer ensemble solutions.
S'il y a des auditeurs qui sont intéressés, puisque moi je voyage pas mal en France, mais j'habite dans la région du côté de Revel, à l'extrême est de Haute-Garonne, tout près du Tarn. En fait, j'habite dans le Tarn, juste à côté de Revel. Donc je me balade beaucoup dans la région, je fais pas mal de conférences, débats, de rencontres, etc. Donc, quelquefois très modestement, hein, dans des petits lieux. Vous avez un site, yuluntas.net, si ça vous intéresse, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Je ne parle pas de ça pour vendre quelque chose, je n'ai rien à vendre à part quelques livres. C'est vraiment pour le plaisir de se rencontrer, pour continuer ce débat. Non pas cette fois seulement avec vous, même si c'était très intéressant, mais pouvoir débattre avec des réponses des auditeurs et même des interventions qui nous permettent de nous remettre en question, parce que peut-être que des choses que j'ai dites que je n'ai pas bien pensé, pas bien réfléchi, et je peux éprouver autrement grâce à la rencontre avec ces auditeurs. Donc ce sera avec grand plaisir que j'aimerais vous rencontrer. Je ne critique pas le média au sens de la radio telle qu'elle est alternative ici, mais je dis que rien ne vaut la rencontre humaine.
peut aussi te lire dans diverses revues, notamment Ciné Hebdo.
Ciné mensuel, voilà, qui est devenu mensuel. J'écris presque tous les mois dedans. Voilà.
Qui fête ses un an, c'est ça ?
Oui, c'est ça, qui fête ses un an. J'écris dedans.
Tu es un petit cofondateur peu.
Oui, cofondateur, c'est un bien grand mot. Je suis à l'origine, avec d'autres, de cette nouvelle formule du journal qui est devenue mensuelle. J'écris dedans des chroniques grecques, quasiment un journal sur deux, donc tous les deux mois, puisque je vais en Grèce très régulièrement. Et j'écris des fiches conseils humoristiques parce que je peux être satirique à mes heures. Là, j'étais un peu sérieux, mais j'ai même un petit peu aidé pour le Festival du Groland à Toulouse. Je fais des choses comme ça aussi. Puis je travaille beaucoup avec les libertaires, le monde libertaire, la décroissance et un petit peu avec le front de gauche ici ou là. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se font et je pense qu'il faut vraiment rassembler ce qui est épars dans les circonstances actuelles. Il ne faut vraiment pas se diviser sous prétexte de vieille lune. Quoi. Voilà. Il y a des gens qui me disent, mais les libertaires qui me disent quelquefois, mais qu'est-ce que tu fais avec le front de gauche ? D'autres front de gauche qui me disent, mais comment tu peux te rendre compte revendiquer libertaire aujourd'hui, c'est has-been. Voilà, je pense pas que ce soit tout ça, ce soit important. Quoi. Je pense que l'essentiel, c'est surtout d'essayer d'aller à la rencontre de ceux qui ont vraiment envie de changer les choses. Et il y en a beaucoup, plus qu'on ne le croit, sauf que la plupart pensent que c'est pas possible, alors que vraiment... Moi, j'assure que c'est vraiment pas du tout inéluctable ce qui arrive et que même de toute façon, un jour, ça va exploser. Il ne faudrait pas que la façon dont ça explose se fasse le creuset des idées les pires qui soient. Voilà. Parce que je pense que si les choses continuent, on ne sait jamais, on peut arriver à une Europe... Là, cette fois vraiment fasciste par rapport à la question de départ. Là, ça ne sera pas le totalitarisme financier, ça sera quasiment le fascisme. Une Europe peut-être des peuples, mais une Europe fasciste. Donc, je pense que c'est vraiment dangereux. C'est vraiment une dérive possible. À force de nous diviser... De nous diviser au sens du capitalisme financier, c'est-à-dire pour nous mettre en concurrence. Le principe du capitalisme, c'est la concurrence sous prétexte d'arriver à chercher un équilibre entre l'offre et la demande avec la main invisible du marché. C'est en fait un processus qui vise à nous mettre en concurrence. Et cette concurrence-là, elle a un nom sur le plan politique, c'est le nationalisme, sur le plan géopolitique. Et je pense que cette tournure pourrait éventuellement survenir assez rapidement. Et on le voit d'ailleurs dans pas mal de pays. Il ne faut pas croire que les vieux démons ne sont plus là. Donc il faudrait agir avant que cette dérive soit trop importante. Parce que sinon, toutes les énergies de la révolte vont s'échapper vers ces zones alambiquées dangereuses, voilà, qui peuvent conduire vraiment au pire et qui sont à contresens de la véritable lutte. Quoi. C'est pas, on ne doit pas se battre les uns contre les autres, hein. On ne doit pas se mettre ajouter encore plus de concurrence. Les Français, les étrangers, les voisins, etc. Non, c'est au contraire, il faut s'unir contre ceux qui sont très peu nombreux et qui nous oppriment complètement. Parce que ces gens-là, par rapport au nombre, ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. On y arrivera. Je pense qu'on y arrivera, mais l'important surtout, c'est déjà d'y croire un petit peu. Et puis surtout de remettre en question aussi nos pratiques, parce que de toute façon, on ne pourra pas faire l'économie de s'arrêter un petit peu de consommer tel qu'on l'a fait jusqu'ici. Vraiment se rendre compte qu'il y a des choses inutiles dont on n'avait pas besoin. Maintenant, il faut vraiment qu'on revienne à l'essentiel, c'est prendre le temps de vivre, prendre le temps de la rencontre avec autrui et essayer d'être un peu moins idiot, passer un peu moins à côté de sa vie tel qu'on l'a fait jusque-là quelquefois.